Alors, la démarche documentaire, qu'est-ce qui est documentaire dans le film? D'abord, le père, la sœur, les amis sont des noms professionnels qui jouent leur vrai rôle, leur propre rôle, qui jouent quelque chose qui est proche d'eux et qui ne va pas à l'encontre de ce qu'ils sont. Les personnages ont leur métier, leur vrai métier. On n'a pas écrit quelque chose pour eux qu'ils n'auraient pas fait normalement. Lane est bien handicapé, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le film, on ne sait pas de quoi. Alors, on imagine, on se dit, bon, bah, il est tombé de cheval ou de taureau, il a eu un accident très grave, et la réalisatrice, savamment, décide de ne pas dire qu'en fait, c'est un accident de voiture. Alors, il y a une scène au début, d'ailleurs, où il parle d'une virée en voiture avec lui, il conduisait comme un fou. Enfin, on peut peut-être y penser vaguement, mais vu le sujet du film, comme elle ne le dit pas, je pense qu'on pense d'abord qu'il a eu un accident avec un animal, de rodéo. Donc c'est intéressant parce que le fait de ne pas dire quelque chose de la vérité nous pousse à penser autre chose. Mais bon, en tout cas, évidemment, elle n'a pas demandé à un acteur de jouer Lane, c'est le vrai Lane qui joue. Le dressage aussi, c'est un vrai moment documentaire, c'est-à-dire qu'elle a demandé à Brady de dresser un cheval sous nos yeux. Alors évidemment, nous, on en voit 4 minutes dans le film, ça a duré tout l'après-midi, et peut-être même ça a été étalé sur plusieurs jours, ce dressage. Alors la première partie du dressage, c'est ce qu'on appelle le débourrage d'ailleurs, et vous verrez, je ne vous parlerai pas trop de cette scène parce qu'elle est très bien analysée dans le dossier pédagogique, vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez vraiment reprendre l'analyse, etc. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette scène, qui est sans doute une des plus belles scènes du film, avec la plus belle lumière, etc. Regardez dans le dossier pédagogique du CNC, elle est vraiment bien. En tout cas, ce dressage, ce qui est intéressant, c'est que Brady, pendant le tournage, était aussi dresseur. Il se levait à 5h du matin pour dresser les chevaux, et à midi, il commençait le tournage. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été ajouté ou on lui a demandé de venir dresser ou d'apprendre à dresser, c'est quelque chose qu'il savait faire, qu'il faisait. En l'occurrence, là, la scène de dressage, je vais revenir dessus, mais elle est aussi très esthétique. L'accident est réel et d'ailleurs, il y a une sorte de prime à la réalité avec l'accident qu'on voit au début en vidéo. Donc, c'est intéressant, c'est lui-même qui regarde son accident et à plusieurs moments, on voit des vidéos, notamment de Lane, du passé fabuleux légendaire de Lane et du taureau, mais aussi des photos que je vous ai mises. Non, je ne l'ai pas mise sur ce slide-là, mais sur une autre. En tout cas, la place des photos, la place des vidéos comme des images du réel qui viennent sans cesse nous rappeler le côté documentaire réel du film, une chose intéressante. On n'est pas très loin de Gagarine finalement avec ces images d'archives, hein. Enfin, la relation avec Apollo est vraie, mais Apollo était déjà mort quand le film a été tourné, donc Apollo a été la scène notamment de la blessure, elle est rejouée. Évidemment, par ailleurs, c'est une blessure qui est beaucoup plus impressionnante dans le film qu'elle était dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est une blessure qui l'empêchait de vivre dans la vraie vie, donc on l'a achevée. Mais dans le film, pour qu'elle soit plus visuelle, ils en ont fait un peu plus. Donc voilà, de dramatisation naturelle du cinéma. En tout cas, ça fait partie de l'idée qu'il y a une reconstitution dans le film de choses réelles, mais qui sont donc rejouées. Alors, vers la fiction, cette documentation, vers la fiction en particulier, vous avez remarqué que Brady Gendreau ne s'appelle pas Brady Gendreau dans le film, mais s'appelle Blackburn. Alors, ça devient donc un personnage. C'est à la fois le Brady documentaire de son prénom et le Brady fiction, les fameux 40% de son nom de famille. Donc, ça aide déjà à une forme de regard sur le film, il y a une réécriture, mais partielle. Dans ces 40% qui n'appartiennent pas à la vraie vie de Brady, il y a notamment le fait de jouer des émotions. La scène dans la voiture, là je vous ai mis une image en bas à gauche, la scène dans la voiture, il pleure, ça lui a été par contre commandé. Il disait qu'à ce moment-là du tournage, il n'avait pas du tout envie de pleurer, il était dans sa voiture, il était très bien, il l'a fait à la demande de Chloé Zhao, elle l'a fait évidemment à la demande de la fiction. Il y a des scènes aussi qui sont écrites et on le sent et ça se voit. Par exemple, la scène où il s'énerve, dont je vous parlais tout à l'heure au saloon pour soi-disant protéger sa sœur. Là, c'est pour vraiment creuser son côté cowboy, pour aller plus loin, pour présenter voilà, la caractérisation du personnage. Il y a des éléments de dramatisation aussi qui viennent régulièrement dans le film pour en quelque sorte appuyer le scénario, construire une sorte d'architecture scénaristique au document, en particulier autour de la mort de la mère, à qui il fait référence 3 fois. On voit sa tombe, on en parle. Il y a une ancienne amie du lycée qui parle d'elle. Donc il y a des références à la mère qui viennent appuyer cette absence. C'est toujours très dur de montrer les absents au cinéma. Donc là, comment on fait? Ah. Bon, c'est intéressant par rapport au film de ce matin aussi, d'ailleurs. Comment on fait? Bon, ben, on met un petit mot avec de l'argent, on met quelqu'un qui parle d'elle, on met voilà, une photo ou une tombe, et ça fait que le spectateur est travaillé par cette absence, comme le personnage. D'autre part, dans la dramatisation, il y a les plans récurrents de la main qui se crispe, qui vont devenir vraiment un leitmotiv du film, finalement, ce qu'il ne peut plus faire. Et le moment où il s'effondre, là, voilà, bon, qui est clairement mis en scène, où il faut qu'il tombe de cheval au moment où il a un peu trop goûté à la liberté. Et donc là, ça dramatise ce moment-là. Donc tout est fait dans les ajouts fictionnalisés pour créer une dramatisation autour de qu'est-ce qu'il va choisir. Est-ce qu'il va choisir de retourner au rodéo et d'en mourir, ou la réalité et vivre une réalité diminuée. Autre chose, la temporalité et l'esthétisation du dressage, comme on vous disait, même s'il y a derrière le souci documentaire, il y a l'idée de faire des beaux plans. C'est un moment vraiment très, esthétiquement très séduisant. Et le rapport au soleil, etc., faisait que le chef opérateur demandait à Brady de refaire des gestes. Donc Brady faisait vraiment les gestes du dressage, mais pour avoir la meilleure lumière, le chef op lui disait, tiens, on va se mettre là, on va faire là, refais ton geste. Donc l'idée de refaire des prises, évidemment, c'est un peu contraire à l'idée du documentaire, où on doit saisir les choses qui arrivent une fois sous nos yeux. Là, comme ce n'est ni un documentaire, plus un documentaire et pas encore tout à fait une fiction, il y a cet aspect-là qui est intéressant, le fait de refaire. Et enfin, le film est construit scénaristiquement et esthétiquement autour d'antithèses. Le jour, la nuit, intérieur, extérieur, liberté, enfermement. Il y a toute une construction du film autour de ces éléments et qui vont faire voilà, tenir comme une œuvre sous nos yeux. Alors, je voulais vous montrer un extrait de L'apprenti, le film de Samuel Collardet, qui est intéressant parce que bon, ça se passe dans une ferme, donc c'est une sorte de continuité thématique. Mais c'est un film dans lequel Collardet, le cinéaste, a rencontré le jeune Mathieu qui veut devenir apprenti dans une ferme. Il va se faire engager pour 1 an et il décide de le suivre pendant cette année. Donc il va à chaque saison filmer quelques semaines, 2, 3 semaines, le jeune homme et son évolution. Donc l'idée, c'est un peu la même, c'est-à-dire c'est un personnage qui a son nom, là il a son prénom, qui va être chez des fermiers qui sont de vrais fermiers, qui vont vraiment être ses enseignants, ses pédagogues, et on va regarder les aventures de Mathieu. Et en même temps, il y a de la mise en scène, il y a des choses que le réalisateur voulait et qu'il a fait jouer sur les émotions à ses acteurs pour faire tenir le film dans un récit qui soit cinématographique. Alors je vais vous montrer une scène qui se situe à peu près au milieu du film. Le film était au programme d'ailleurs de Collège au cinéma, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Alors quand le réalisateur et sa co-scénariste rencontrent le petit Mathieu, il a 14 ans, il est adorable, il adore les animaux, il a très très envie d'aller dans cette ferme. Quand 1 an plus tard, il entre dans son apprentissage, il est devenu un adolescent, difficile, en conflit avec sa mère, et vous voyez qu'il maltraite ici l'animal. Dans le scénario, le réalisateur et sa scénariste avaient écrit, bon, il y a une naissance, et après la naissance, il chouchoute la brebis. Comme ils se sont rendus compte que dans la réalité, c'était faux, qu'il ne chouchoutait pas la brebis, ils se sont dit, bon, on a prévu une scène avec la brebis, on va, enfin avec l'agneau plutôt, on va montrer la scène avec l'agneau. Le veau, pardon, oui, je ne suis pas très bon en animaux. Ok, donc le veau, absolument. Donc avec le veau, donc une scène avec le petit veau, en plus j'avais appelé l'extrait le veau, donc c'est difficile de se tromper. Bref, en tout cas, avec le petit veau, il maltraite le petit veau, il décide de filmer la réalité, de lui pas faire jouer l'émotion contraire, qui aurait été contraire au vrai Mathieu de l'époque, mais à lui faire jouer la vraie, voilà, l'émotion qu'il ressentait et sa façon d'être et ses gestes qu'il ressentait. De cette façon, on n'imagine pas Brady en dehors des prises maltraiter les chevaux et voilà, sans doute il y a une sorte de fidélité. Alors, et pour ce genre de scène, par exemple la scène de la naissance, ce qui est intéressant, c'est que bon, encore une fois, il était prévu qu'il y ait une naissance, c'était probable qu'il y ait une naissance pendant 1 an de tournage, c'était même absolument nécessaire pour le fermier qu'il y ait la naissance d'un petit veau. Donc le cinéaste était un peu à l'affût, en train de se dire bon, quand est-ce qu'elle va accoucher, etc. Et la caméra était voilà, à peu près prête, mais évidemment, ils n'ont pas attendu toute la nuit avec la caméra, tiens, c'est ce jour-là. Ils ont attendu qu'on lui dise bah, ça va être là dans quelques heures, hop, ils ont placé le matériel, ils l'ont fait. Mais ce qui fait qu'il y a une reconstitution, même au montage, parce qu'en réalité, cette scène, ils l'ont tournée en plein jour. Et pour créer l'impression comme ça, une dramatisation. Ils ont filmé le réveil de Mathieu qu'on va réveiller. Donc ils ont filmé ça après. Tiens, on va le réveiller. Allez, c'est là, on va là. Et ils ont fermé toutes les portes de la grange pour faire croire que c'était la nuit. Donc il y a une part de faux, quelque chose de complètement réinventé par le cinéma pour montrer une scène qui est vraie pour le coup quand le veau sort de la vache. Là, voilà, c'est 100% vrai en quelque sorte. Ils n'ont pas triché. Donc c'est intéressant dans ce genre de film comment pour nous faire avaler la vérité, si j'ose dire, on va construire autour tout ce qui se passe autour de la, voilà, de quelque chose de faux. Et ça vient de l'origine du cinéma. Hein. Dès les films muets, il y avait cet effet de reconstitution de quelque chose de faux pour dramatiser et montrer quelque chose de vrai. Pensez par exemple à Nanook l'Esquimau. Nanook l'Esquimau, quand Flaherty, le film en train de se réveiller avec sa famille, eh ben, il est là, la caméra est déjà placée, et il lui demande de faire semblant de se réveiller. Il n'a pas attendu toute la nuit qu'il se réveille. Ou, voilà. Donc, et puis d'ailleurs, on a appris après que ce n'était pas vraiment sa famille, qu'il a reconstitué une fausse famille ou des choses comme ça pour le bien du film. Donc voilà, derrière le geste documentaire, il y a parfois une forme de trahison du réel qui va nous permettre comme ça de raconter mieux le réel. Il y a un autre cinéaste qui est important finalement pour ce mélange de réalité et de fiction, c'est Maurice Pialat, dont je vous ai montré un court-métrage documentaire ce matin, L'amour existe. Mais en fait, si vous regardez L'enfance nue, qui est un film qui a d'ailleurs été aussi au programme de Collège de cinéma il y a quelques années, bah, L'enfance nue, c'est un enfant abandonné, mais qui est joué par un acteur qui a de vrais parents et qui va entrer dans une famille d'accueil. Et la famille d'accueil, ce sont des vrais parents d'accueil qui font vraiment l'accueil d'enfants et qui ont leur vrai nom. Donc il va y avoir des scènes en champ contre champ entre le petit garçon qui est acteur, alors acteur non professionnel, mais qui joue un rôle qui n'a pas son nom, il n'est pas abandonné, etc. Et le contre-champ, ça va être le vrai père et la vraie mère d'adoption qui s'appelle Pépère et Mémère dans le film et qui racontent des histoires vraies, leur propre vie. Donc c'est intéressant dans un film quand il y a quelque chose qui brouille les pistes et certains cinéastes comme Agnès Varda disent bah, dans un film il y a toujours et du documentaire et de la fiction. On voit bien dans les films d'Agnès Varda que ces films documentaires, il y a beaucoup de poésie, beaucoup de fictionnalisation et dans ces films de fiction, elle joue beaucoup sur filmer le réel et donc elle apporte du document.